Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, Matière à penser, cette semaine consacrée à ailleurs, la Chine. La Chine est lointaine, la Chine est distante, mais est-elle ailleurs? Est-elle ce grand ailleurs que l'Occident a construit pour mieux se comprendre, pour en saisir au fond la consistance de ce rapport entre la Chine et l'Occident, mais aussi tout simplement pour essayer de comprendre ce qui nous arrive? Eh bien, pendant toute la semaine, on va discuter avec des journalistes, des écrivains, des historiennes, des sinologues. Je ne sais pas si ça va plaire à mon invité, ce mot sinologue. Bonsoir François Bougon.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous ne voulez pas que je vous présente comme sinologue ?
Je n'aime pas trop ce mot de sinologue.
Pourtant, vous parlez chinois.
Oui, j'essaye de le parler. J'essaye de le parler depuis plus de 30 ans. Mais j'aime pas le mot de sinologue parce qu'il impliquerait qu'il y ait une science de la Chine pour moi. Et pour moi, le sinologue, c'est un peu la figure du toutologue, de celui qui a réponse à tout sur la Chine. Et c'est ce que je n'aime pas du tout, en fait, avoir réponse à tout sur la Chine, puisque je trouve que la Chine est devenue tellement complexe que avoir une personne qui puisse prétendre à la science sur la Chine, je trouve ça presque une escroquerie d'une certaine manière. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais voilà, c'est pour ça que j'aime pas le mot de sinologue.
Je comprends. En tout cas, vous êtes sinisant et vous êtes journaliste au Monde. Vous avez longtemps travaillé à l'AFP et entre 2005 et 2010, vous avez été correspondant à Pékin. Et vous venez de sortir aux éditions du Seuil un livre passionnant qui s'appelle « La Chine sous contrôle », Tiananmen 1989-2019. Vous avez plongé dans l'histoire urbaine de Pékin comme vous aviez, il y a deux ans, plongé dans la tête de Xi Jinping. C'était paru aux éditions Actes Sud. À la fin de ce livre, François Bougon, « La Chine sous contrôle », vous vous présentez justement à ce moment-là de votre vie, entre 2005 et 2010, et vous dites que c'est à ce moment là que date votre prise de conscience d'être européen et donc dépositaire d'un héritage précieux. Le livre commence à Tiananmen, il s'achève sur l'agora d'Athènes et c'est dans cette distance que se constitue une prise de conscience.
En fait, j'ai pris conscience que j'étais européen en Chine, en effet, progressivement, et j'ai pris conscience dans cette période particulière qui est le 2005-2010. C'est la période où la Chine se prépare à recevoir les Jeux Olympiques. Et donc, vous avez une Chine qui est à la fois très désireuse de recevoir l'autre, mais en même temps qui est dans un discours de plus en plus nationaliste, d'affirmation d'un presque d'un récit national, d'une force. En 2010, la Chine va passer au deuxième rang économique mondial. Et donc, j'ai senti progressivement à quel point j'étais européen, non pas dans des détails, mais dans des choses importantes, que notamment les valeurs universelles, l'attachement au droit, la capacité d'animer un débat dans un espace public. Et puis Tiananmen, c'est ça aussi pour moi. C'est pour ça que je suis allé en Grèce. C'est-à-dire la notion d'espace public en Chine, c'est la place Tiananmen, et c'est une place maîtrisée. C'est une place que le pouvoir contrôle. Alors qu'en Occident, l'origine, pour moi, l'origine de la démocratie, c'est cette place où les gens vont discuter.
Vous en faites une histoire urbaine de cette place de Tiananmen, et c'est tout un précipité d'histoire, justement, qui se lève sous votre plume. Revenons sur cette période. On va aller de l'avant, on va aussi aller en arrière, mais restons sur cette période 2005-2010. C'est le moment où vous êtes à Pékin, c'est un moment décisif pour la Chine. Vous savez très bien où vous étiez le 8 août 2008 à 20h.
J'étais dans le stade qui avait été construit, le nid d'oiseau, comme on l'a surnommé en chinois. Et c'est vrai que j'ai vécu un moment.
C'était pour les Jeux Olympiques.
Voilà, pour les Jeux Olympiques, j'étais transporté d'enthousiasme, donc habité par par Dieu, quoi, presque, par les dieux. Et c'était, en fait...
C'était la cérémonie d'ouverture.
C'était la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le 8 août 2008 à 20h. Et il y a eu un spectacle, j'en parle dans la tête de Xi Jinping, il y a eu ce spectacle qui a été mis en scène par le cinéaste qui s'appelle Zhang Yimou. Et qui a été pour moi c'était pour moi un condensé de je vous parlais du récit national, mais de ce récit que les Chinois sont en train de constituer, donc autour des valeurs traditionnelles. Vous aviez Confucius, beaucoup de références à Confucius. Vous aviez des références aussi à la grandeur de la Chine retrouvée avec les inventions chinoises successives, que ce soit l'imprimerie, que ce soit la soie, que ce soit...
Les grandes expéditions aussi de Chang'e au XVe siècle.
Et puis avec une magnificence et un art de mise en scène qui était très impressionnant pour impressionner à la fois le public chinois puis aussi le public international. Et donc pour moi c'est un moment assez fort où ça fait partie de ces moments où tout d'un coup j'ai compris que la Chine était là et elle s'imposait au monde.
À ce moment-là, Xi Jinping n'est pas encore au pouvoir, mais il est aux portes du pouvoir, hein, c'est ça? Il est vice-président.
Il est vice-président. Il a été rappelé à Pékin quelques mois auparavant, enfin plusieurs mois auparavant. Il était avant à Shanghai. Et il a été chargé notamment de présider les derniers travaux pour les Jeux Olympiques, en fait. Et c'est à partir de là qu'il commence à prendre du poids au sein du pouvoir chinois.
Et cette cérémonie très impressionnante, dites-vous, François Bougon, c'est une leçon d'histoire adressée à l'Occident qui dit quelque chose comme « on aurait pu être depuis bien longtemps ce que vous avez été si vous ne nous aviez pas empêchés ». C'est la grande question de l'humiliation de la Chine au XIXe siècle. Et désormais, nous serons ce que vous ne pouvez plus être.
Oui, en effet, Patrick Boucheron, c'est aussi un discours sur l'humiliation. C'est-à-dire, c'est un discours, moi je le ressens beaucoup sur la revanche. Et en l'occurrence, 2008, c'est aussi une année particulière parce que vous avez vu les soulèvements dans des régions tibétaines et vous avez eu la volonté, notamment de Nicolas Sarkozy, de boycotter cette fameuse cérémonie d'ouverture. Et ça a entraîné côté chinois des réactions très très violentes, des campagnes anti-françaises, alors qui se sont manifestées par des rassemblements devant les carrefours, donc puisque c'était une marque française. Et puis moi j'étais donc à l'agence France Presse et donc on était constamment l'objet de d'attaques par téléphone, par mail. Les employés chinois qui travaillaient pour nous étaient qualifiés de traîtres. En chinois, c'est un terme qui est hantian, ça veut dire traître, mais c'est l'expression utilisée pour désigner ces Chinois qui ont travaillé avec les Japonais pendant la guerre. Donc c'est très très méprisant, très insultant. Et donc il y a eu un déferlement comme ça une vague anti-française et là j'ai compris ce ressort nationaliste très très puissant dans la Chine d'aujourd'hui en fait.
Il vous est arrivé, François Bougon, de vous faire reprocher d'atteinte au peuple chinois. Il y a une expression particulière.
Il y a une expression qui est en vogue en Chine en ce moment, c'est heurter les sentiments du peuple chinois.
Oui, c'est ça, heurter les sentiments du peuple chinois.
Dès que vous commencez à remettre en cause la rhétorique du pouvoir communiste, dès que vous commencez à critiquer, invariablement dans la bouche des fonctionnaires chinois, il y a cette expression « vous heurtez les sentiments du peuple chinois ». C'est-à-dire, donc, on en revient toujours à cette question de l'humiliation, des traités inégaux, de Hong Kong, de la guerre de l'opium. Donc on est en permanence renvoyé à ce passé qui ne passe pas pour nous.
Dans la tête de Xi Jinping, donc, votre livre qui est paru aux éditions Solin Actes Sud en 2017, vous prenez au sérieux, au fond, cette leçon d'histoire que Xi Jinping adresse à l'Occident et vous montrez comment, d'une certaine manière, il est l'homme de cette synthèse des fameux 5000 ans d'histoire, qui sont 5000 ans d'histoire, j'allais dire, sans couture, sans hésitation, sans remords, où effectivement il suffit de regarder, d'aller visiter un musée chinois pour voir que rien ne leur manque, jamais. n'y a jamais de temps faible dans l'histoire de la Chine et tout est rassemblé maintenant. C'est-à-dire non seulement le maoïsme, le confucianisme, mais aussi toute l'époque Ming. C'est très impressionnant comme emprise sur le passé.
Oui, en effet, Patrick Boucheron, c'est... Pour moi, Xi Jinping, c'est l'homme de la synthèse. C'est vraiment l'homme qui, à ce moment précis de l'histoire chinoise, décide de construire quelque chose de nouveau qui n'est plus une légitimité communiste, qui n'est pas forcément une légitimité nationaliste, mais qui est un peu tout cela, en fait, et qui joue sur tous les ressorts de l'histoire chinoise et qui prend l'histoire au sérieux, en fait. Le nationalisme chinois aujourd'hui, il est permanent, en fait, quand on lit les textes. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart du temps, cette question du nationalisme, elle ne monte pas dans les textes qui sont traduits en anglais à destination des étrangers, mais elle est en permanence dans les textes officiels, dans les discours officiels qui sont uniquement en chinois, destination du public chinois. Et ça, c'est un ressort très important. Et si on comprend pas ça aujourd'hui en Chine, on a du mal à comprendre ce qu'est ce pouvoir. C'est-à-dire qu'il a, d'une certaine manière, il a un double discours où il est à la fois très, alors je dirais cajoleur, c'est peut-être un terme erroné, mais il peut être très ouvert à l'extérieur, prônant le multilatéralisme, le libéralisme, les échanges, etc. Et notamment Xi Jinping à Davos. Et en interne, les textes, les travaux, etc., sont souvent assez durs, en fait, assez durs. Ils représentent une vision du monde, quand même, qui pour un étranger peut sembler assez fermée.
Comment vous travaillez, François Bougon? Parce que, à lire aussi votre livre « La Chine sous contrôle », qui porte bien son titre, on se rend compte d'abord que c'est aussi une chronique de l'aveuglement occidental. Par exemple, sur Internet, vous avez des pages intéressantes où on voit et Zuckerberg et Bill Clinton ne pas comprendre littéralement ce qui se passe en Chine et croire que Internet va de toute façon faire baisser la garde et ébrécher la muraille de Chine. Or, c'est tout le contraire. D'une certaine manière, lorsqu'on vous lit, on voit qu'on n'est pas très loin d'une dictature parfaite du point de vue du contrôle de l'information. Donc vous, François Bougon, qui au Monde écrivez, notamment sur l'Asie, comment vous faites pour collecter l'information ?
En fait, puisque maintenant je ne suis plus présent sur le sol chinois, je travaille beaucoup à partir des textes, à partir d'Internet, à partir des livres en chinois. Donc j'essaye beaucoup de m'intéresser aux textes en chinois, en fait. Il y a quelque chose, c'est ce qui m'avait donné envie d'écrire le premier livre, c'est que on a eu tendance pendant longtemps à considérer que les textes qui étaient produits par le régime était uniquement de la propagande. Donc on avait une tendance à mépriser cette littérature, entre guillemets, mais et à l'écarter, à ne pas vouloir... Alors d'une part, parce que certains ne pouvaient pas lire le chinois, mais quand on lisait, à ne pas vouloir la lire parce qu'on considérait que c'était de la propagande. Et en fait, moi j'essaye beaucoup de regarder... Alors, par moment, c'est assez, c'est pas très intéressant parce que c'est vrai que c'est beaucoup de langue de bois, mais il y a quand même des textes, il y a quand même des choses qui sont, il y a des discours qui sont produits et qui donnent quand même une idée de ce qu'est le régime, en fait. Oui. Donc, j'essaye de travailler sur cette matière-là pour éviter d'être uniquement dans une vision qui passe, par exemple, par des textes qui ont été traduits en anglais. Et puis, par ailleurs, je travaille aussi, j'essaye de repérer beaucoup les livres, notamment, qui sont publiés à Hong Kong, donc qui échappent à la censure chinoise et qui recèlent énormément d'archives intéressantes sur les périodes les plus récentes, comme Tiananmen.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse en tant qu'historien, François Bougon, dans la lecture dans la tête de Xi Jinping. C'est au fond que vous prenez au sérieux la production documentaire du régime et que vous voyez comment, d'une certaine manière, s'y rassemblent et s'y fédèrent plusieurs références, donc les références chinoises extrêmement importantes, les références marxistes. L'année dernière, en 2018, il y a eu encore des grandes célébrations de Marx en Chine, et puis aussi des références occidentales. Tocqueville, Karl Jaspers, par exemple, font leur apparition dans la pensée Xi Jinping, et à chaque fois, ça a un sens. C'est-à-dire, c'est un événement à chaque fois.
Oui, en effet, Patrick Boucheron, c'est en fait, on a l'impression qu'il y a une énorme machine de réarmement idéologique, en fait, et c'est ce que j'ai essayé de comprendre dans la Chine sous contrôle, c'est-à-dire que on a l'impression que le régime communiste chinois depuis Tiananmen a pris au sérieux la bataille idéologique. Il a besoin de se réarmer, il a besoin de se donner de nouveaux outils pour contrôler la population. Parce que c'est important, le régime communiste chinois ne cesse de vouloir contrôler la population, non seulement avec l'armée, avec la police, mais aussi avec les idées, en fait. Donc, et on le voit notamment dans l'emprise qu'exerce le parti sur les médias, et aussi de sa volonté de faire en sorte que les intellectuels participent aussi à cette entreprise, d'une certaine manière. Vous avez régulièrement des sessions d'études du comité permanent du bureau politique, donc qui est le cœur du pouvoir, et vous avez des sessions d'études où les universitaires sont invités à s'exprimer, ou des sociologues, enfin bref, tous ces gens qui appartiennent au régime, mais qui sont pas des dissidents, en fait. Et donc voilà, vous avez un régime quand même qui prend au sérieux la production d'idées, la production d'une idéologie.
Est-ce que la dissidence est encore possible en Chine aujourd'hui ?
Elle est possible, elle est difficile, mais elle est encore possible. Alors, c'est des gens qui sont héroïques, hein, parce que vous pouvez tout perdre. Et surtout depuis 2012 et l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, les rares espaces de liberté qui avaient pu exister depuis 2008-2009, notamment via les réseaux sociaux, via les blogs, ces espaces-là se sont de plus en plus réduits. Donc, on l'a vu récemment avec un professeur d'université qui a diffusé des textes à l'étranger en chinois pour critiquer Xi Jinping, et lui vient d'être mis à pied de son université. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. C'est aussi compliqué de s'organiser, c'est compliqué de tenir tête.
Vous parlez aussi de l'une des plus grandes stars du cinéma chinois actuel, Fan Bingbing, qui s'était volatilisée en juin 2018 et qui est revenue mystérieusement et qui a fait son autocritique dans la plus belle tradition maoïste, qui se termine par, sans le parti communiste, c'est par les réseaux sociaux, justement, par le Twitter chinois, Weibo, qu'elle délivre ce message. Sans le parti communiste et les politiques justes de l'État, sans l'amour du peuple, il n'y aurait pas de Fan Bingbing. Ce qui est une reprise, dites-vous, d'une justement formule maoïste, sans parti communiste, il n'y aurait pas de Chine.
C'est une caractéristique, Patrick Boucheron, de la Chine d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez tout d'un coup des disparitions de personnalités. Vous avez notamment des chefs d'entreprise, et là, Fan Bingbing, ça a fait beaucoup de bruit parce que c'est une star. Et ce qui était intéressant.
Récemment aussi, le directeur d'Interpol.
D'Interpol, tout à fait. Et ce qui était intéressant avec Fan Bingbing, c'était cette star mondiale, et tout d'un coup, elle peut disparaître. Et qu'elle fasse ce texte tellement. Ça se termine systématiquement, soit vous apparaissez à la télé pour faire des aveux forcés, soit vous faites un texte. Donc elle a eu le droit de faire un texte. Ils lui ont évité l'humiliation d'apparaître à la télévision, et c'est vrai qu'elle a repris c'est une chanson qu'apprenaient tous les Chinois dans les années 60-70, même encore aujourd'hui. C'est Meiyo Kong Chan Dang Tio Meiyo Xing Chonghua. C'est sans le parti communiste, il n'y aurait pas eu de Chine nouvelle.
Et dans cette dictature parfaite, vous êtes d'accord avec cette expression ? Pas vraiment.
Dictature parfaite. Je ne sais pas ce que serait une dictature parfaite. Alors je crois que c'est Stan Ringen qui a inventé cette expression. Alors lui l'utilise parce qu'il explique que pourquoi c'est une dictature parfaite ? Parce que c'est un régime politique autoritaire qui dispose aujourd'hui d'outils extrêmement perfectionnés
du point de vue technologique
voilà. Pour contrôler la situation.
C'est une société de contrôle comme voilà. Personne n'aurait pu l'imaginer il y a encore 10 ans.
Dictature parfaite au sens où alors c'est le mot de parfait qui me gêne. Dictature parfaite, pour moi c'est un oxymore, mais
vous voulez pas être sinologue, hein, décidément. Non, voilà, tout ce qui tout. Vous ça rapporte au grand tout.
Non, François mais parce Bougon, que je pense que ce n'est pas une dictature parfaite qu'il reste encore des interstices, il y a encore des gens qui peuvent... on est dans une société, c'est ce que j'essaye de montrer dans la Chine sous contrôle. Vous avez des zones grises, vous avez encore des zones où les gens peuvent penser par eux-mêmes, s'organiser, etc. Donc c'est pas une dictature parfaite. Nous ne sommes pas dans la période maoïste où Mao pouvait contrôler le cerveau des Chinois, pouvait déclencher des guerres civiles, etc. Vous avez quand même des Chinois qui pensent par eux-mêmes aujourd'hui. Alors bien sûr, ils peuvent pas l'étaler en place publique, ils peuvent pas s'organiser, mais malgré tout, ils sont libres.
Oui, mais justement, c'est tout l'enjeu de ce livre « La Chine sous contrôle » qui nous rassemble à ce micro de France Culture, François Bougon, de montrer effectivement les faiblesses possibles, les potentialités politiques de cette situation, mais qui ne sont pas là où on les croit, qui ne sont pas là où l'Occident les espère. Donc, ultimement, votre livre est aussi une réponse à cette impression que vous avez faite le 8 juillet 2008, c'est-à-dire une leçon d'histoire adressée à l'Europe. C'est pour ça que je parlais de la fin sur l'Agora. Et la toute fin de votre livre dit ceci: ce qui me semble essentiel, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes une proie facile. La Chine, en nous attaquant sur notre socle commun, devrait nous ouvrir les yeux. Il faut sortir du déni, regarder nos failles et reconstruire un avenir. À nous de nous réarmer idéologiquement. Donc cette expression du réarmement idéologique, vous la faites vôtre.
Oui, parce que je pense que je pense qu'on vit un moment important en Europe où le projet européen est en train d'être remis en cause, où se posent des questions très importantes comme la lutte contre le changement climatique, l'impact que peuvent avoir les migrants sur les sociétés européennes, sur comment on s'organise, comment on lutte contre la montée des extrêmes. Et je pense que à un moment donné, il faut peut-être sortir d'une sorte de confort intellectuel vis-à-vis de pays comme la Chine, ou d'une sorte d'arrogance en pensant que de toute façon, à la fin, on va triompher. Et ben non, peut-être que non, on va pas triompher. Donc peut-être qu'il est temps de se réveiller. Wait.
Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de François Bougon, auteur au seuil de la Chine sous contrôle, Tiananmen 1989-2019, journaliste sinisant, il tient à cette distinction. Et mélomane aussi, vous, qu'est-ce que vous nous avez amené comme musique ?
Alors, Patrick Boucheron, je vous ai amené une chanson d'une artiste du cantopop.
Ah oui, quand même.
Fai Wong en cantonais à Hong Kong. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle est née à Pékin. Elle s'appelle en pinyin, elle s'appelle Wang Fei. Pourquoi j'ai choisi cette chanson ? Parce qu'en fait, elle a repris une chanson d'une autre chanteuse taïwanaise qui s'appelle Dang Lichun, Teresa Teng. Et cette Teresa Teng, ses chansons ont beaucoup circulé sous le manteau après 78, au début de la période d'ouverture et de réforme, et elle était considérée par les communistes purs et durs comme étant vénéneuse, parce qu'elle parle beaucoup de chansons d'amour, c'est d'abord moi, alors qu'avant, dans les chansons communistes, sous la révolution culturelle, il était beaucoup question du nous, et là, tout d'un coup, c'était moi, en fait. Et un auteur, notamment un cinéaste comme Tia Chang-ke, a beaucoup utilisé Teresa Teng, les chansons de Teresa Teng dans ses films, et donc là, Wang Fei reprenait cette chanson qui en plus est une adaptation d'un poème classique d'un auteur qui s'appelle Su Tong Po Souche, et ça, j'aime beaucoup c'est à la fois très moderne, mais en même temps ça se rappelle d'une poésie classique des Song du Nord.
Mais oui, parce que vous refusez d'être appelé sinologue, François Bougon, mais vous avez appris le chinois au milieu des années 80, attiré par la littérature classique. Moi, attiré par la poésie, par la peinture.
Oui, j'étais assez fasciné par la poésie classique chinoise, bien sûr traduite. Et il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué. C'était le livre du moine Citrouille Chetao, qui est un livre qui a été traduit par Pierre Rickmans, qui est aussi plus connu sous son pseudonyme de Simon Less, celui qui a
Les habits neufs
du président Mao, quelqu'un qui pour moi m'a aussi beaucoup marqué dans ma découverte de la Chine, puisque c'est quelqu'un qui ne s'est jamais laissé entraîner par la folie maoïste et qui a su à un moment donné justement lire les textes. Il était à Hong Kong et puis il connaissait aussi la Chine communiste puisqu'il avait été en poste là-bas. Et à un moment donné, il a su lire les textes, il a su voir ce qui se passait, il a su ne pas être berné par ce qui se passait et bien voir ce qu'était cette révolution dite culturelle et pouvoir décrypter les luttes de pouvoir au sein de l'appareil communiste et puis la volonté de Mao de tout reprendre.
Donc vous êtes à l'école de cette lecture sérieuse et attentive des textes au milieu des années 80 avec Simon Leys, avec d'autres, mais quand même avec en arrière-fond donc les propos sur la peinture du moine Citrouille amer, c'est-à-dire malgré tout cette grande culture chinoise.
Oui, j'ai eu mon comme professeur Léon van der Mersch qui aussi m'a beaucoup apporté sur la connaissance de ce qu'il appelait ce monde, de ce qu'il appelle toujours, mais ce qu'il appelait à l'époque le monde sinisé. Donc c'est la manière dont la Chine a étendu son influence à la fois au Vietnam, en Corée, via les caractères et le confucianisme. Et c'est vrai que les caractères chinois, pour moi, c'est un mystère renouvelé et un plaisir permanent. Et donc, quand j'ai fait du chinois, j'étais aussi avec un professeur un peu fou, qui était un mi-russe, mi-chinois, qui s'appelait Nicolas Lysenko.
Qui nous a
introduit à ce qu'on appelle en chinois le tiak wen. Tiak wen, c'est l'origine des caractères chinois. C'est la manière dont les premiers chinois, enfin, faisaient des caractères sur des carapaces de tortue pour faire de la divination. Donc oui. Voilà. Donc pour moi, c'était je suis rentré dans le chinois via ce genre d'enseignement.
Donc par cet ailleurs, mais en même temps, il y a aussi un dedans urbain que vous décrivez très bien dans la Chine sous contrôle. en disant on ne peut pas comprendre au fond la Chine si on n'a pas fait cette expérience qui est une expérience urbaine. De vivre à Pékin, de vivre à Shanghai, c'est-à-dire de vivre en se sentant poussé par un vent de l'histoire d'une puissance incroyable. C'est-à-dire d'être littéralement dans ce que Xi Jinping appelle la solution chinoise. C'est-à-dire que c'est pas simplement un modèle, c'est une solution aux problèmes du monde. Et ceux qui comparent cette Chine à l'Union soviétique de Gorbatchev ne comprennent rien, dites-vous, parce que justement, là, on est dans un monde en expansion.
Tout à fait, Patrick Bouchon. C'est ce que j'appelle le... Ce que j'essaye d'appeler, en fait, c'est, j'essayais de comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire, j'appelle ça le paradoxe de Pékin. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est à la fois une dictature politique parfaite, peut-être. Mais par ailleurs, c'est aussi des villes, c'est des univers urbains d'une modernité presque effrayante, fascinante.
Et entraînante aussi.
Et entraînante. Je pense que vous êtes sûrement allé en Chine et la plupart des gens qui vont là-bas goûtent cette expérience en fait. Et ils sont, et je pense pas que ceux qui sont allés en Union soviétique dans les années 70-80, à moins d'être des convaincus, ont goûté ce genre d'expérience. Donc en fait, j'essaye de comprendre ça. C'est pour ça que ce régime communiste chinois nous pose question aussi à nous Européens, parce qu'il nous pose un problème que nous n'avons pas connu avant, c'est-à-dire comment une grande puissance aujourd'hui peut être aussi une dictature politique.
C'est ça. Et vous parliez tout à l'heure, François Bougon, de l'héroïsme des dissidents, et en prenant la mesure effectivement de cette puissance urbaine, on saisit aussi quel extravagant courage il faut pour s'en extraire, parce que c'est encore une fois terriblement convaincant. C'est ça qu'il faut comprendre.
Bah, vous perdez beaucoup si... C'est-à-dire, vous pouvez beaucoup gagner si vous participez au jeu, d'une certaine manière. C'est-à-dire que... Moi, je montre un peu le parcours d'un cinéaste comme Chia Chang-ke. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on a toujours... On a toujours pensé Chia Chang-ke comme étant un dissident, c'est-à-dire le cinéaste qui dévoile les dessous de la Chine, le côté ultra-violent de cette Chine urbaine ou rurale. Et donc forcément, on le classait comme un dissident. Mais sauf que Chia Chang-ke, par ailleurs, il est député à l'Assemblée nationale, il essaye de développer des affaires, il ouvre des salles de cinéma. Donc c'est ça aussi la Chine d'aujourd'hui, c'est-à-dire que trouver un dissident comme Liu Xiaobo qui est mort sur son lit d'hôpital, c'est très très difficile parce qu'il est Liu Xiaobo depuis 89, il se bat, il se souvient de Tiananmen, tous les ans il compose un poème, et donc être Liu Xiaobo demande presque un effort surhumain, et il a dû combattre un système, mais sauf qu'il est souvent très très seul.
Alors parlons de Tiananmen justement, François Bougon. Nous évoquions dans la première partie de cette émission la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin le 8 août 2008. Cette fois-ci, nous serons à Paris le 14 juillet 1989 pour le bicentenaire. Et le 14 juillet 1989, c'est à peine un peu plus d'un mois après la terrible répression de Tiananmen. Alors, dans le défilé de Jean-Paul Goude, il y a ce grand tambour chinois, il y a ces étudiants chinois de Paris à vélo avec des bandeaux « Liberté, égalité, fraternité ». Et puis, il y a cette phrase... On aimerait tellement y croire, mais c'est pas vrai, de François Mitterrand, un régime qui tire sur sa jeunesse n'a aucun avenir. Et nous sommes en 2019.
Oui, vous avez raison, Patrick Bouchon, c'est cette phrase, elle poursuit la France en fait d'une certaine manière, parce qu'elle semblait engager la France vis-à-vis des dissidents chinois. Et c'est vrai qu'au départ, Paris joue un rôle bien particulier Vous avez notamment Pierre Berger qui permet d'ouvrir une maison de la démocratie, il met beaucoup d'argent, beaucoup de dissidents qui ont pu échapper au massacre de Tiananmen et à la répression qui s'en est suivie rejoignent la France grâce à ce qu'on appelle l'opération Yellow Bird qui a permis avec l'aide de la diplomatie française d'exfiltrer.
Vous la racontez, c'est incroyable. Voilà, hein, c'est vraiment très romanesque d'ailleurs.
C'est romanesque, c'est un polar. Et, ouais. Et donc la France dans les
Pourquoi ça s'appelle d'ailleurs l'oiseau jaune?
Alors l'oiseau jaune, c'est le loriot en fait, c'est ça?
La menthe religieuse poursuit la cigale, oui. L'oiseau jaune est derrière.
Et donc Paris, dans un premier temps, constitue un centre de la dissidence chinoise post-Tiananmen. Et progressivement, en fait, les dissidents vont partir, ils vont aller plutôt aux États-Unis, donc très très peu de Chinois qui ont participé à Tiananmen se trouvent aujourd'hui en France. Il y en a un qui s'appelle Chang Lun, qui est prof dans une université à côté de Paris et qui sort justement une BD sur son expérience. Mais c'est vrai que la France a un peu déçu. La France, patrie des droits de l'homme, progressivement, c'est d'une certaine manière normalisé. Et aujourd'hui, la dissidence se retrouve plutôt... soit en Allemagne, soit aux États-Unis.
Votre livre commence par une enquête sur la fameuse photo de l'étudiant devant le char. On sait un peu mieux aujourd'hui, François Bougon, ce qui s'est passé le 4 juin 1989, mais on ne sait pas tout encore.
Non, il y a beaucoup de zones d'ombre, Patrick Boucheron. Il y a d'une part le bilan. On ne dispose pas de bilan officiel.
2800 morts, on dit?
On a 2800 morts, mais c'est juste des estimations, des suppositions. C'est basé sur le travail de certains historiens chinois, mais qui sont à l'étranger, et puis sur travail d'enquête à partir de ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Mais aucun bilan officiel n'a été donné. Et puis l'autre inconnu, oui, c'est le sort de ce Chinois dont vous évoquez la photo, c'est-à-dire celui qui s'est dressé devant les chars le 5 juin et qui est devenu pour nous l'icône, en fait, qui est devenu le cliché, l'image que l'on utilise pour évoquer Tiananmen.
Alors restons justement sur cette place qui n'en est pas tout à fait une d'ailleurs, qui est un espace pour la parade. Vous en faites l'histoire urbaine, François Bougon, c'est intéressant. Donc rappelez-nous un peu où on est.
On est... Tiananmen, c'est la porte de la paix céleste. C'est l'entrée sud de la cité interdite. Et donc, jusqu'à la chute de l'Empire, jusqu'en 1912... Le cœur du pouvoir ne se trouvait pas sur cette place Tiananmen, elle se trouvait beaucoup plus au nord, au cœur de la cité interdite où se trouvaient les empereurs. Quand les communistes arrivent au pouvoir en 1949, Mao Tse-tung fait son discours, le fameux discours du 1er octobre 1949, où il proclame la naissance de la République populaire de Chine, une nouvelle Chine est arrivée, sur la terrasse de cette porte de Tiananmen, en fait. C'est pour ça que la place Tiananmen revêt cette importance pour les communistes et une manière de prise de contrôle sur l'histoire chinoise.
C'est le lieu de cette mémoire-là.
C'est le lieu de cette mémoire-là. Et après, à partir de 49, il va y avoir un certain nombre de grands travaux. Et la volonté du régime communiste chinois, c'est de faire comme les Russes, de se refaire une place rouge, mais encore plus grande. Et Mao voulait encore plus grand que Staline. Donc
il peut y mettre 1 million de personnes.
Voilà, ils ont envoyé des experts à Moscou pour voir la place rouge, etc. Donc et puis après, ils se sont fâchés avec les Russes, avec l'Union soviétique. Donc ils ont décidé de prendre leur destin en main et ils ont transformé cette place Tiananmen. Et cette place Tiananmen est devenue vraiment le centre du pouvoir. C'est le cœur du pouvoir chinois. Vous avez alors ça va vous intéresser aussi, puisqu'il y a le musée de la Révolution.
Oui.
qui aujourd'hui a été transformé en musée de la Chine, musée d'histoire de la Chine. C'est un très très grand musée aujourd'hui qui justement présente ce récit national selon Xi Jinping, avec l'humiliation, les premières révoltes contre l'empire et puis l'arrivée des communistes. Vous avez donc ça, c'est côté ouest. Côté est, vous avez le palais du peuple, qui est le lieu où se rassemblent les députés et le lieu où ont lieu les congrès du Parti communiste. Et puis, par ailleurs, au centre de la place, désormais, vous avez le mausolée de Mao Tse-tung. Donc, c'est vraiment le lieu à la fois des monuments, le lieu de l'histoire, le lieu du pouvoir. Et donc, c'est pour ça que ce moment de Tiananmen en juin 89 est un moment très particulier où tout d'un coup, vous avez une utopie populaire. La population s'empare vraiment.
Oui, il y a une occupation, ça, en sens.
Voilà.
Et qui rejoue d'ailleurs une histoire ancienne, ou relativement ancienne, puisqu'elle avait déjà eu lieu en 1976,
c'est ça,
le 4 avril.
Oui, c'est la mort de Chou Enlai, qui était un premier ministre particulièrement apprécié, et qui, il meurt quelques semaines auparavant, et donc le 4 avril, c'est un peu la Toussaint des Chinois. Les Chinois qui veulent rendre hommage à Chou Enlai vont se rassembler progressivement sur la place Tiananmen. Mais la bande des quatre, c'est-à-dire Madame Mao et ses sbires, n'apprécient absolument pas ces rassemblements. Donc là, ils vont réprimer. Donc
c'est la première répression.
C'est ce que j'appelle une sorte de répétition de ce que sera
la répétition générale.
Donc,
préfiguration.
Voilà.
Et d'ailleurs, vous parlez d'une autre préfiguration, d'un roman d'anticipation qui se passerait en 2185, c'est tout à fait fascinant, où on irait prendre justement, cloner
le cerveau de Mao
pour, fond, refaire l'histoire.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce texte a été écrit par un des auteurs de science-fiction les plus appréciés aujourd'hui. Il a été traduit, on peut trouver ses œuvres notamment, en particulier aux éditions Actes Sud.
C'est Liu Cixin,
voilà. Et il écrit en janvier 89, il écrit ce texte qui est pour moi un texte assez intéressant, qui n'a jamais été publié mais qui circule beaucoup sur Internet, et où il imagine cette prise de contrôle par des hackers d'une certaine manière du cerveau de Mao Tse-tung, et ils vont créer une sorte de république parallèle, ce qu'ils appellent le Tianxia, c'est une expression pour désigner la Chine ancienne, et donc jusqu'au moment où on va trouver l'impératrice, mais celle qui règne sur la Chine va trouver la solution, ça va débrancher purement et simplement. Et je trouvais intéressant qu'il écrive ça en janvier 89, quelques mois avant cette prise de contrôle place par les étudiants, en fait. Alors ils n'ont jamais osé aller s'emparer du mausolée de Mao. Trois d'entre eux ont juste lancé des œufs sur le portrait qui est justement accroché sur la porte sud. Ils en ont payé le prix d'ailleurs, puisqu'ils ont passé une bonne partie de leur vie derrière les barreaux. Mais voilà, je trouvais intéressant de raconter aussi cette fiction-là, la place de la science-fiction qui est aujourd'hui en Chine, et on en revient un peu sur cette ultra-modernité. C'est vrai que la science-fiction chinoise aujourd'hui est d'une vitalité très impressionnante.
Merci François Bougon.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, François Bougon, Joséphine Lempreya, Marie Le Peintre, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, j'aurai le plaisir de recevoir Anne Kerlan, auteure de Lin Chao, combattante de la liberté chez Fayard. Bonne soirée.